150 ans après, feuilleton sonore sur les traces d'Alexandre Dumas. Chapitre 3, confidence d'une illustratrice.
Nous suivons aujourd'hui la piste de Jeanne Delacroix, mais quel est le lien entre ce génie de la couleur et Alexandre Dumas ? Eh bien, figurez-vous que l'écrivain était aussi critique d'art. Lors de l'exposition universelle de 1855, il consacra toute une série d'articles à son ami peintre. Un an après sa mort, il lui consacra une causerie qui réunit une assemblée nombreuse et enthousiaste dans une salle d'exposition de la Société nationale des beaux-arts. C'était le 10 décembre 1864. Ce texte hante l'illustratrice Catherine Meurice depuis ses années étudiantes. L'année dernière, elle a publié chez Dargaud un album merveilleux qui reprend les mots de Dumas et se laisse emporter par eux. Son imaginaire s'envole à la croisée de la peinture et de l'écriture. Bonjour Catherine Meurice.
Bonjour.
Eh bien, pour commencer, qu'est-ce qu'une causerie ? C'est un genre un peu oublié aujourd'hui.
Oui, c'est un genre à part et Dumas excellait dans ce genre. Hein, c'était un causeur brillant et qui provoquait la sympathie. C'était vraiment voilà, il excellait dans la causerie. La causerie, c'était plus qu'un discours, si on pourrait dire un discours qui s'adressait à un public. Là, en ce qui concerne ce texte sur Delacroix, comme vous le disiez, donc Dumas a réuni des amateurs de Delacroix un an après sa mort et dans une salle d'exposition. Et Dumas a raconté la vie et l'œuvre avec la fougue qu'on lui connaît devant ce public et à grand renfort d'anecdotes savoureuses. Voilà, donc c'est pas du tout un discours figé, c'est une causerie, on est presque entre amis. On est en bonne compagnie, voilà. Et en effet, c'est un terme un peu oublié, c'est un terme qui pourrait sembler désuet, mais moi je l'aime beaucoup, je le trouve très chaleureux, oui.
Et on peut dire que Dumas n'était pas un critique d'art traditionnel, il voulait justement réformer la critique d'art en la rendant plus indépendante, plus bienveillante. Il y a un ton vraiment particulier dans ce texte.
Oui, il parle vraiment de son ami peintre, de ses amis peintres, et je crois qu'il n'exagère pas, il ne ment pas, enfin il exagère, il a toujours le don de gonfler certaines anecdotes, et c'est ce qu'on adore chez lui, mais en effet, ce n'est pas, Dumas n'est pas un historien, on a l'impression qu'il est trop pressé pour ça, il lisait de l'histoire avec un grand H, l'histoire c'est un clou auquel il accroche ses romans, donc il va plus vite, il n'a pas la patience d'être un chercheur pointilleux, il ne va pas rentrer dans les détails des combats de l'art, mais il en parle quand même, il en parle superbement, et il faut voir dans cette causerie sur Delacroix, quand il évoque notamment ce combat entre la couleur et le dessin incarné par Delacroix et Ingres, qui est resté gravé dans le marbre et dans les manuels et dans les cours, dans l'histoire de l'art. Quand Dumas en parle, c'est comme si on lisait presque un fait divers dans un journal. C'est hilarant. Il dit qu'en gros, on a, pour s'opposer à Delacroix, on a cherché vraiment qui pouvait lui faire face. Puis on a pris Ingres.
On est tombé sur Ingres.
On est tombé sur Ingres. On n'y pensait pas finalement. Ingres, pourquoi pas. Donc voilà, tout est comme ça. Et c'est d'une grande sincérité. Je trouve ça très chaleureux, une fois de plus. Ouais, il y a quelque chose chez Dumas, une bonhomie qui est très attachante.
Et je crois que vous avez rencontré ce texte il y a assez longtemps. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ?
Oui, j'étais étudiante aux Arts Déco de Paris et je devais préparer un diplôme, c'est-à-dire reproduire un travail d'illustration ou de bande dessinée. C'était assez libre à l'époque. Et en me promenant en librairie, parce que j'allais beaucoup flâner en librairie pour trouver l'inspiration, j'étais tombée sur un petit livre publié au Petit Mercure de France, qui n'existe plus, je crois qu'il a été publié en 96. Moi, je suis tombée dessus en 2004, et qui s'appelait Delacroix, qui s'intitulait Delacroix, c'était signé Dumas, et c'était cette causerie dans son intégralité. Sur la couverture de ce tout petit livre de poche, on pouvait voir la mort de Sardanapale, la reproduction du tableau de Delacroix, et j'adore ce tableau, et ça m'a, voilà, spontanément, j'ai acheté ce livre et je me suis plongée dedans et c'était immédiat. J'ai su que j'allais pouvoir en faire quelque chose, que c'était tout à fait, comment dire, que la verve de Dumas pouvait être associé à un dessin assez caricatural, humoristique, qui est mon dessin, qui était encore plus caricatural à l'époque, parce qu'en 2004, à 24 ans, j'étais très, comment dire, j'étais sous l'influence de Granville, d'Aumier. Je sortais de l'école Estienne, je rentrais aux Arts Déco, j'allais être embauchée bientôt à Charlie Hebdo pour quelques années. Et je voyais très bien ce texte de Dumas, fougueux, drôle, empathique, illustré de manière très libre. En fait, le texte de Dumas était un texte d'un homme libre qui parlait d'un peintre libre, et je me suis dit, j'ai l'autorisation d'en faire quelque chose, d'en faire une adaptation absolument libre. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, je l'ai illustré en noir et blanc à l'époque, de manière assez, j'allais dire, assez stricte. Je parle de liberté d'écriture stricte, c'est un peu contradictoire, mais c'est-à-dire que j'ai recopié à la main le texte de Dumas à la plume. J'ai vraiment utilisé les outils des illustrateurs de l'époque, enfin contemporains de Dumas et de Lacroix, et j'ai incrusté des petites caricatures comme ça dans le texte, et tout ça était en noir et blanc, ce qui est un peu étrange parce que on le sait, de Lacroix est vraiment le peintre, enfin dit-on, le peintre de la couleur. Et le livre est sorti comme ça, juste après mes études, il a été publié dans la foulée. Et 15 ans plus tard, je l'ai repris et j'en ai fait un autre ouvrage. Et cette fois-ci, j'ai mis la couleur. Cette fois-ci, j'ai eu envie de quelque chose de flamboyant. j'en ai fait un tout autre livre. J'ai repris certains dessins anciens que j'avais fait donc en 2004-2005 et je les ai mis en couleur. J'ai fait des adaptations des tableaux de Delacroix. Enfin, je me suis sentie complètement libre à nouveau, et j'en ai fait un album qui est un livre assez hybride. C'est pas vraiment une bande dessinée, c'est entre le livre et l'illustré, la bande dessinée, l'ouvrage, le beau livre. Et ça, c'est quelque chose que j'adore, de ne pas être figé, de ne pas être dans une case précise. Et il m'importait vraiment de proposer de nouveau ce texte de Dumas, de faire entendre ce texte de Dumas qui est vraiment génial, quoi, qui résonne, qui n'a pas pris une ride, je trouve, même s'il y a évidemment beaucoup de références à l'époque, hein, à la presse de l'époque, à la politique de l'époque, mais ça reste très actuel parce que son ton ne se démode pas. Voilà, c'est vraiment une voix assez intemporelle et une fois de plus généreuse. C'est une voix familière qui résonne et j'avais envie de nouveau de partager ce texte en couleur cette fois-ci.
Et justement, cette voix, comment avez-vous travaillé dessus? Est-ce que quelque part le rythme du propos vous a imposé le rythme des dessins? Enfin, comment avez-vous fait vos découpes?
Oui, mais en effet, il y a un rythme dans le texte de Dumas qui rejoint le rythme du dessin. Et ce qui est assez drôle, c'est que je n'ai quasiment rien ajouté au texte de Dumas. Moi qui ai l'habitude de ramener ma fraise, qui ai fait beaucoup de bandes dessinées sur les grands écrivains, les artistes, les gens de lettres que j'aime, dont je me moque avec amour. Non, là, j'ai quasiment rien ajouté. Le texte de Dumas était déjà assez drôle et vivant, et surtout, les dialogues étaient tout prêts.
Et les ça, bulles c'est assez sont génial. De Dumas.
Les bulles à 90%, 99 peut-être, 95 disons, sont de Dumas. Et Dumas a été d'abord connu comme dramaturge à succès, et il était réputé pour être très bon dialoguiste. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a vraiment importé son art du dialogue dans ses romans, dans cette causerie. Et donc, le travail était tout fait. Donc, je n'ai eu qu'à... à exporter ces dialogues dans des bulles. Et j'ai fait très peu de montage. J'ai même conservé une digression qu'il fait sur Géricault, qui est vraiment passionnante, où il se permet, il dit « bon, pardon, excusez-moi, je me permets, je vais prendre 5 minutes pour parler de Géricault ». Et il a connu bien sûr Géricault, il l'a vu juste avant sa mort, et il parle c'est jamais gratuit quand il parle d'un artiste, il le montre au travail. Et il raconte une anecdote qui vaut de l'or. Enfin, c'est-à-dire que Géricault était très, très malade, avait subi une opération, et Dumas lui dit « Mais alors, comment ça s'est passé l'opération ?» Et Géricault dit « Bon, ça va, parce que je pensais à autre chose, en fait, je pensais à un tableau. » Et Géricault raconte que sur la table d'opération, il regardait les chirurgiens, il avait demandé à être placé dans un miroir pour voir ce que faisaient les chirurgiens. Donc, il a étudié sur lui-même. Voilà. Jiriko a ensuite a dit, bon, bah, très bien, maintenant j'ai en tête l'anatomie, ma propre anatomie, et je vais en faire des tableaux, et ça va être extrêmement juste, parce que j'aurais vu ça sur moi. Et il raconte ça, et quelques jours après, il était mort. Donc, et Dumas, voilà. Dumas ne pouvait que vivre cela, et il nous le raconte très bien. Voilà, donc j'ai vraiment conservé le texte original, et c'est vraiment une gourmandise, quoi. C'est formidable.
Et il y a un sens de la mise en scène étonnant, je pense, au tout début, à l'enfance de Delacroix, où Dumas raconte qu'il a été brûlé, noyé.
Exactement, qu'il s'est empoisonné.
Étranglé.
Oui, c'est l'enfance de Delacroix, voilà, synthétisée comme ça. Moi, je l'ai fait. Ça rentre dans deux pages d'album. Voilà, on a toute l'enfance, l'enfance accidentée de Delacroix, où ça peut être une série d'histoires tragicomiques, parce qu'en effet, Delacroix a manqué de mourir plusieurs fois. Et en même temps, ça nous dit déjà que, voilà, que c'est un enfant singulier, qu'il a échappé au pire très tôt et qu'il va avoir un destin particulier. Dumas romance tout de suite, en fait. C'est ça qui est vraiment formidable.
Il y a aussi la critique qui tient une place très importante dans ce récit. Vous, en tant qu'artiste, comment avez-vous pris ces passages ?
C'est intéressant. On a l'impression que la critique avait vraiment de la dent dure à l'époque, mais peut-être qu'aujourd'hui encore, je ne suis pas trop réfléchie à la question. Spontanément, je dirais qu'il dépeint une critique très très féroce et
dont souffre Delacroix.
Et en fait, Dumas s'emporte et vraiment est en colère contre la critique parce qu'il nous raconte que la critique blessait Delacroix, et Dumas n'aime pas que Delacroix soit blessé, soit à terre. Dumas a compris que avant tout le monde, enfin, comme Baudelaire ou d'autres, que Delacroix était vraiment un génie, et ça l'énerve prodigieusement de voir que la critique ne le comprend pas, etc. Et c'est vrai que Delacroix, quand même, on a bavé en quelque sorte, hein, pendant longtemps. Et Dumas évoque également l'Académie, bien sûr. Vous alliez peut-être y venir, mais c'est drôle comme oui, l'Académie à cette époque là, fin 19e, était très très figée, quoi, beaucoup plus pardon, cherche le mot, mais c'est pas pardon, j'ai pas le mot, c'est pas conventionnel, c'est pas réactionnaire, bref,
beaucoup,
ça va m'en venir.
Plus qu'aujourd'hui.
Oui, beaucoup plus.
Parce
qu'aujourd'hui,
vous en faites partie de l'Académie des Beaux-Arts.
Exactement.
Justement.
Oui. J'ai mis moins de temps que Delacroix à y rentrer. Je me trouve très insolente. Non, je crois que Delacroix a dû s'y prendre 8 fois, je crois. Et Dumas s'en moque gentiment. Il me dit, mais qu'est-ce qui... Enfin, Delacroix s'y est pris assez tôt, enfin, même à postuler pour le prix de Rome assez tôt. Et qu'est-ce qui lui a pris ? Mais il aurait dû continuer à faire son travail. Qu'est-ce que c'était que de chercher ses honneurs ? Et d'ailleurs, Delacroix n'a pas réussi tout de suite. Il a été classé dernier lors du premier prix de Rome, etc. Et une fois de plus, on sent quelque chose de protecteur chez Dumas, en fait, quand il parle de Delacroix qui cherchait inutilement les honneurs. Honneur qu'il a trouvé plus tard, bien sûr, hein. Il a fini par entrer à l'Académie de la Croix. Et voilà, mais c'est vrai que, oui, au fil des pages, on a quelques pics, 3 ou 4, je crois, où on comprend que l'Académie n'aimait pas du tout l'art de la Croix. Et c'est drôle parce qu'on a l'impression que l'Académie...
Oui, on n'aimait pas l'Académie non plus.
N'aimait pas l'Académie. On a l'impression que, en tout cas à travers les mots de Dumas, que l'Académie distribuait les bons et les mauvais points. Ce qu'elle ne fait plus aujourd'hui, il me semble. C'est-à-dire que l'Académie semblait dire, bon, ça c'est moche, ça c'est beau. Là, ce que j'ai pu voir de l'Académie des Beaux-Arts depuis quelques mois, j'ai jamais entendu Le Perpétuel ou mes confrères et consoeurs dire, bon, cet artiste, c'est vraiment pas bien ce qu'il fait. Non, il y a quand même plus de subtilité, une plus grande ouverture. Sans que, heureusement, l'époque a changé, et il y a vraiment une grande ouverture, une grande curiosité aujourd'hui pour les artistes, et pas l'art classique. C'est vraiment, on n'est plus du tout là-dedans. Donc, C'est marrant de, ouais, c'est marrant de lire ça chez Dumas, ouais. Ouais. Ouais.
Et il y a un épisode assez amusant, justement, c'est celui du bal, où on demande à Dumas d'organiser un bal avec tous les artistes, justement, qui ne font pas partie de l'Académie et qui ne sont pas politiques et pas invités au bal
Exactement.
de Louis-Philippe, je crois.
Exactement, c'est en 1833. Louis-Philippe a donné un bal formidable aux Tuileries, extraordinaire. Tout le monde en parle, tout Paris en parle. De nombreux politiques étaient, hommes et femmes politiques étaient, enfin, hommes politiques étaient invités, des artistes, etc. Les artistes académiques, officiels. Et un ami de Dumas lui suggère de donner un bal. Et Dumas dit, pourquoi je donnerais un bal? Et son ami lui dit, bah, parce qu'il faut inviter les artistes qui ne sont pas de l'Académie, il faut inviter tout ce que Louis-Philippe n'a pas invité. Et Dumas a organisé ce bal, l'a donné. Et ça, c'est un morceau de la causerie qui est absolument délicieuse. C'est un des plus beaux passages, je trouve, parce que Dumas raconte qu'il a convié ses amis écrivains, peintres, poètes, compositeurs, etc., qui en effet ne s'affichait pas avec la garde rapprochée de Louis-Philippe. Et il raconte surtout, Dumas, qu'il a convié ses amis peintres à décorer l'appartement, le grand appartement où aurait lieu le bal. Et ses amis peintres, c'est Granville, Cicéry, c'est Delacroix, bien sûr, c'est même le sculpteur Barry, etc. Et tous s'y mettent. Et peignent les encadrements de portes, les soubassements, les plinthes, les murs. Voilà, tous ces amis décorateurs vont peindre sur ces murs juste pour ce bal unique que Dumas va donner. Et Delacroix se fait attendre, arrive au dernier moment et sous les applaudissements de ses confrères se met à esquisser et peindre un roi Rodrigue sur le mur, voilà, comme ça très rapidement et tout le monde l'admire. Et ce que j'aime beaucoup dans ce passage, c'est que Dumas parle d'une sainte fraternité dans l'art qu'on ne verra plus jamais, qu'on n'a jamais vu, qu'on ne verra plus jamais. Et il en parle on sent une joie et un amour vraiment des artistes quand il parle de cela qui est jubilatoire, quoi. C'est vraiment, une fois de plus, c'est la générosité de Dumas qu'on entend ici, là, qui résonne. Et ce passage est fameux, hein, ce passage du bal, ce carnaval de 1833 est fameux. Ouais.
Ça ne vous a pas donné des idées de fête?
Si, alors en ce moment, c'est difficile d'imaginer une fête. On a vu ce que ça donnait à Joinville.
Exactement.
Donc, non, mais peut-être une autre fois. En tout cas, c'est sûr que quand j'ai de nouveau travaillé sur cet album, j'avais vraiment cette expression en tête, une sainte fraternité dans l'art. Voilà, ça, petite phrase qui reste dans ma tête. Ouais. Je trouve ça assez merveilleux. Et oui, ça a gardé... Je trouve ça assez inspirant et puis ça, oui, ça fait rêver, oui. Oui.
Et on sent aussi dans vos dessins que vous avez pris un certain plaisir à dessiner Alexandre Dumas, qui avait quand même un visage particulier, une corpulence assez importante. Est-ce que c'était un sujet intéressant pour vous ?
Oui, c'est sûr. C'est drôle parce que dans la toute première version, publiée il y a 15 ans, j'avais dessiné Dumas en tout petit, vraiment, mais parce que je l'imaginais comme une petite souris, c'était pas lui la vedette, il racontait, donc je l'avais fait en tout petit bonhomme, je me disais, bon, dans le dessin, on peut tout se permettre, etc. Et puis, quand même, en reprenant cet album, je me suis dit, non, il faut faire honneur à Dumas, c'était un géant, il était doué d'une imagination prodigieuse, il avait une puissance de travail étonnante, donc il faut qu'il ait quand même un corps, ce corps, cette silhouette immense qu'on lui connaît. Et oui, ça a été un plaisir que de le dessiner joufflu, avec ses petits yeux qu'on imagine briller quand il parle de ses amis peintres. Mais ce qui est... en fait, je le dessine pas beaucoup dans l'album parce que Dumas... c'est lui qui parle, c'est lui qui raconte les anecdotes qu'il a vécues, mais il ne se met pas en avant. C'est vraiment Delacroix qui le met en avant. Et ça, c'est quand même un tour de force pour un auteur qui écrasait, qui est une sorte de bulldozer. À l'époque, il aurait pu il aurait pu faire du moi-je à chaque ligne, et pas du tout. Il est beaucoup plus intelligent que ça. Il est là, c'est bien lui qui parle, mais c'est Delacroix qui nous présente, et ça, c'est la signature des grands. Des grands, dans tous les sens du terme, il était immense.
Et bien pour finir, vous nous aviez parlé de fraternité des artistes. Est-ce qu'il y a d'autres artistes ou personnalités qui pourraient peut-être eh bien nous aider à sentir aussi cette postérité d'Alexandre Dumas?
Des artistes qui pourraient nous permettre de... Eh bien, je pense qu'il y en a à l'Académie.
La vôtre?
La mienne ou la voisine? Non, je crois que on a des écrivains qui, qui est au siège de Dumas, Dumas. Non, Dumas n'avait pas de siège à l'Académie, mais son fils avait un siège.
Eh bien,
C'est
nous
Daniel de
allons
la
nous
Ferrière,
renseigner.
c'est ça? Voilà, donc, par exemple, on a Daniel de la Ferrière qui est au siège du fils de Dumas. Eh bien, peut-être que voilà, il y a le sang de Dumas qui passe par là, et la force de Dumas, et la voix de Dumas n'est pas prête de s'éteindre.
Bien, grand merci, Catherine Meurice.
Merci à vous.